Famille, justice, enfance.
Famille, justice, enfance, ce soir, un enregistrement, parce que Maître David Guyon nous fait l'honneur de revenir pour nous parler d'instruction en famille. C'est l'époque, nous sommes en juin, c'est un sujet difficile. J'ai personnellement ici contacté énormément d'associations. Elles ne veulent pas forcément en parler parce qu'elles ont peur qu'on détourne leurs propos, ou alors parce qu'elles ne veulent pas dire publiquement leurs astuces, leurs trucs et astuces. En fait, l'instruction en famille, c'est éduquer les enfants à la maison, parce que pour diverses raisons, on n'a pas envie que l'école le fasse à sa manière à autre. Et c'est de plus en plus compliqué. Maître David Guyon, bonjour. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ?
Bonjour, parfaitement bien résumé. On va approfondir maintenant, si vous voulez.
Avec grand plaisir. Alors déjà, l'instruction en famille, l'école à la maison, pourquoi est-ce que c'est devenu un débat aussi important aujourd'hui ?
Alors, loi du 24 août 2021. Ça, c'est une date qui a marqué évidemment de très nombreuses familles parce que depuis cette loi, on a changé totalement de paradigme. Auparavant, vous informiez l'administration que vous décidiez de mettre en place l'école à la maison, l'instruction en famille. C'est le terme juridique, c'est exactement la même chose.
D'accord.
Donc, vous faisiez et vous informiez. Et ce n'est qu'à posteriori que l'administration, si elle constatait qu'il y avait des manquements relatifs à l'acquisition des compétences et un manque de progression dans l'acquisition de ces compétences, qu'elle pouvait ordonner aux familles de réinscrire les enfants à l'école. Ça, c'était la situation qui a dominé jusqu'à la rentrée scolaire 2022. À partir de la rentrée scolaire 2022, on change totalement de régime, on passe de la déclaration à l'autorisation préalable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous demandez à l'administration de vous autoriser à pouvoir instruire vos enfants à la maison.
C'est plus nous qui décidons qu'eux, on demande si on peut.
On demande l'autorisation. Voilà. Et donc, ça a changé complètement la logique qui prédominait jusqu'à maintenant, avec, pour justification, la lutte contre le séparatisme. Parce que l'idée, c'était d'empêcher que des petites filles au fond des caves soient instruites dans une sorte de fondamentalisme religieux qui les empêcherait finalement d'acquérir le respect des lois de la République.
Oui, au départ, officiellement, c'était l'islamisme. Si j'ai bien compris, au départ, on nous parlait de protection contre l'islamisme.
Oui. Exactement, lutte contre le séparatisme. Oui, le projet est dans le nom de la loi, le nom de la loi est dans le projet, mais malheureusement, bon, vous imaginez bien que pour des personnes qui étaient déjà en non-conformité par rapport aux lois de la République, bah aujourd'hui, la seule chose qui a changé pour elles, c'est qu'elles ne demandent plus du tout l'autorisation. Elles sont complètement à l'ombre des lois de la République et elles continuent malgré tout de faire ce qu'elles faisaient auparavant. Donc finalement, ceux que ça a pénalisé, c'est ceux qui étaient en conformité, ceux qui étaient en règle. Et aujourd'hui, clairement, moi, c'est ma clientèle. Ce sont ceux qui viennent nous voir, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du tout celles qui avaient été visées par la loi, c'est-à-dire des fondamentalismes religieux appartenant notamment à la religion islamique.
Alors les gens dont j'entends le discours ou qui viennent me parler ou qui s'expriment sur les réseaux sociaux, eux ne souhaitent pas faire l'éducation, l'instruction en famille pour des raisons religieuses. C'est tout simplement parce que la plupart du temps, moi ce que j'entends, c'est parce qu'ils veulent qu'on revienne à la méthode syllabique et parce qu'ils n'ont pas envie que l'État transmette des valeurs morales qui ne sont pas les leurs. C'est ce que j'entends le plus. Est-ce que vous confirmez ?
Il y a toute une série, pour moi, il n'y a pas une catégorie homogène. Il y a certainement peut-être des catégories plus représentées que d'autres, mais vous le savez, si vous ne le savez pas, les quatre motifs qui permettent aujourd'hui de solliciter l'autorisation d'instruction en famille, c'est l'état de santé, les activités artistiques ou sportives, l'itinérance de la famille et la situation propre de l'enfant. Donc, on voit bien qu'entre une situation de harcèlement et une situation d'itinérance de la famille sur le territoire français, il y a quand même un monde qui les sépare. Donc, c'est évidemment des situations totalement hétéroclites. En revanche, on constate que ceux qui ont le plus tendance à venir devant le tribunal administratif et devant le tribunal correctionnel, parce qu'on en parlera, mais l'un va souvent avec l'autre, ce sont notamment les familles qui sollicitent la situation propre de l'enfant, qui est c'est un peu le motif fourre-tout dans lequel vous allez essayer d'expliquer que votre enfant, qui a son propre fonctionnement, ses propres contraintes biologiques, physiques, morales ou autres, et dans une situation qui justifie que l'instruction en famille est la situation la plus à même de lui apporter la meilleure éducation possible. C'est comme ça que se présente le texte. Et donc, finalement, ce que disait le rapporteur de la loi, C'est, en fait, on va rien changer. Ceux qui bénéficiaient de l'instruction en famille, vous allez continuer d'en bénéficier. C'était ça la promesse qui avait été faite. Et c'est ce qui a un peu fait que, aujourd'hui, les familles se sont faites avoir. C'est-à-dire qu'avec un texte extrêmement flou, vous avez une énorme marge d'appréciation des rectorats qui font qu'aujourd'hui, la politique du moment, c'est d'interdire l'IEF.
Oui. Tout à fait. Et en plus, on voit une espèce de chasse aux sorcières. Moi, j'ai un cas à Brive, là. Il y avait une communauté, des gens qui voulaient vivre un peu en autarcie, en autonomie, un peu en dehors de la société. Ils sont allés chercher les enfants en hélicoptère pour 3 enfants. Et les enfants ont terminé placés sous prétexte qu'ils ne savaient pas qui était Zinedine Zidane, qui faisait l'instruction en famille et qu'on ne respectait pas les valeurs de la République, etc. Tout un discours qu'il y avait autour. Mais c'est allé jusqu'au placement. Donc, c'est un sujet qui est devenu très sensible. Et ce n'était pas des islamistes.
Hein. Non, mais tout à fait. Vous avez raison. Tout à l'heure, vous avez soulevé des questions morales qui faisaient que l'instruction en famille était un mode d'instruction privilégié par certaines familles. Il faut rappeler que le pic, le moment où il y a eu le plus d'enfants instruits en famille, c'était la période Covid.
Oui, c'est logique. C'est vu qu'il n'y avait plus d'école, forcément, oui.
Tout à fait. Alors, il n'y avait plus d'école, mais surtout, il y avait le port du masque pour les enfants dès 6 ans, 8 heures par jour, 5 ouais, jours par semaine.
C'est traumatisant.
Pas de pause café. Donc, évidemment, les protocoles sanitaires étaient beaucoup plus restrictifs que ceux qui s'appliquaient aux adultes, avec il y avait des parents qui, à juste titre, étaient extrêmement inquiets de l'état psychologique et de santé des enfants. Aujourd'hui, il n'est pas contesté que ça a eu des effets psychiatriques sur la population. Donc, on voit bien que tout le monde n'en est pas ressorti indemne. Et donc, pour protéger leurs enfants, beaucoup ont eu recours à l'instruction en famille. Puis, par la suite, vous avez eu raison, c'est l'éducation sexuelle à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des drag queens qui interviennent dans les écoles scolaires pour essayer d'éduquer vos enfants à la sexualité.
Ça peut arriver. C'est pas toutes les écoles, c'est pas systématique. Et malheureusement, dans certaines grandes villes, ça peut arriver. Oui.
Tout à fait. Et ce sont des choses qu'on voit apparaître. Donc évidemment, ça peut inquiéter certains parents qui se disent « Moi, pour mes enfants, c'est pas forcément ce que j'ai envie.
Ouais. »
Et la loi ne leur interdit pas de pouvoir justement leur faire acquérir des compétences du socle commun d'une façon et d'une manière différente. Encore une fois, une société où tout le monde se ressemble, c'est une société qui n'est pas saine.
Oui, oui. Et puis au départ, le contrat, le pacte social. Enfin, moi, je peux entendre le fait que certaines choses reviennent, la transmission des valeurs revienne à la famille et l'instruction de base revienne à l'État. Ça, je peux entendre. Après que, enfin, vraiment, on a l'impression qu'il y a un point de contention, qu'il y a une crispation sur ce sujet à tel point que maintenant, il faut parler vraiment juridique pour avoir le droit d'éduquer ses enfants, d'instruire ses enfants en dehors du système scolaire. Je dirais pas du système périscolaire parisien, mais du système scolaire de manière générale. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a d'ailleurs eu des faits qui ont défrayé la chronique, qui sont entrés directement dans les faits divers, me semble-t-il.
Oui, vous avez raison de souligner ce point-là, le périscolaire. En fait, il y a aujourd'hui 3 raisons qui font que les parents, à juste titre, hein, pour ma part, je trouve que c'est totalement légitime, privilégient l'éducation à la maison. Le premier, c'est que vous avez, et l'État a été condamné récemment, une qualité scolaire qui n'est pas à la hauteur de ce qui est normalement exigé, avec notamment un très fort taux d'absentéisme des professeurs. On a eu des collectifs de parents qui ont fait condamner l'État, justement parce que l'État n'était pas en mesure de pouvoir fournir un nombre d'heures suffisant aux enfants en raison des absentéismes. Donc là, c'est acté, l'État veut absolument vous aller à l'école, mais il n'y a pas les moyens d'avoir des professeurs qui soient présents et qui soient capables de vous prodiguer une instruction de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la situation qu'on a découverte dans les écoles de Paris, mais moi, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, des écoles du périscolaire parisien, avec tout un système mafieux et pédophilique qui peuvent aujourd'hui atteindre des enfants. On sait qu'il y a vraiment eu un problème en France sur la question de la pédophilie, et on a récemment des faits divers qui ont marqué l'actualité et qui démontrent bien que c'est un sujet qui touche beaucoup plus d'enfants qu'on ne le pense. Donc, les parents qui veulent instruire leurs enfants à la maison, c'est aussi des parents qui veulent préserver leurs enfants de tels risques. Et le troisième, c'est le système éducatif, la qualité du système éducatif, notamment avec la question du classement PISA. Vous savez, c'est un peu la théorie de la pomme pourrie. Hein. Quand vous en avez un dans la classe qui est mauvais, en fait, il entraîne par le fond tous ceux qui sont dans cette classe. Et ça, malheureusement, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, notamment dans les écoles publiques, mais on le retrouve aussi dans les écoles privées, où vous avez des enfants qui ne parlent pas la langue française à la maison, qui ont donc un français très argotique, très primaire, avec 300 mots, 400 mots de vocabulaire, donc évidemment très compliqué pour pouvoir s'exprimer. Bah, quand vous mettez ces enfants en contact de d'autres enfants, bah, par effet mécanique, c'est un effet qui s'est retrouvé socialement et qui a été étudié, vous avez tout le niveau de la classe qui s'effondre avec.
Alors, on va même généraliser, si vous voulez. Je suis rentré il y a 10 ans d'Asie. Mes anciens collègues et amis expatriés ont leurs enfants dans des écoles à Hong Kong, Bangkok et Singapour. Très clairement, si j'avais voulu que mon enfant à moi garde le niveau de ses camarades de maternelle, j'aurais dû m'en occuper moi-même. Il est évident que l'argument du niveau scolaire que nous avons aujourd'hui par rapport à plein d'autres pays dans le monde est vraiment entendable.
Tout à fait. Et là, je pense qu'on a cité les trois principaux. Hein.
D'accord.
Il y en a certainement bien d'autres. Hein. Mais rien que ça, déjà, voilà. Ça justifie que des parents qui ne sont pas tout dans des mouvances plus ou moins religieuses n'aient pas forcément envie d'instruire leur enfant.
Non. Là, on est très, très loin de l'islamisme religieux. Là, ça, c'est clair et net. Hein. Donc, alors, aujourd'hui, vu que nous avons vraiment planté le décor, nous avons expliqué pourquoi. Alors, comment on fait si on veut que, avec les amis dans une communauté, là, on se met à plusieurs et puis on fait les classes nous-mêmes avec le CNED et autres. Comment ça se passe ?
Alors, il faut vraiment distinguer le fait d'organiser une école qui est réglementée par le code de l'éducation et des autorisations, etc., et le fait d'instruire son enfant à la maison.
D'accord. Donc, il ne faut pas se mettre à plusieurs. D'accord.
Non, on ne fait pas de classe.
D'accord.
Vraiment, c'est un autre régime. Là, quand c'est comme ça, vous êtes dans une école, il faut créer une école. Mais si vous souhaitez mettre en place l'instruction en famille, ce sont les enfants du même fratrie qui vont être instruits par une personne qui peut être les parents. En général, c'est souvent ça.
D'accord.
Ou alors une personne désignée par les parents.
D'accord.
Et à ce moment-là, vous bénéficiez de l'autorisation à condition de remplir toutes les conditions et de justifier d'un des motifs prévus par la loi, l'état de santé, la situation propre de l'enfant, une activité sportive ou culturelle intensive ou l'itinérance de la famille.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, il faut remplir les documents en temps et en heure, 1er mars au 31 mai de l'année qui précède la rentrée scolaire. Déjà, il ne faut pas rater le coche. La deuxième, c'est que en fonction du motif, vous avez un certain nombre de pièces à fournir. Donc, choisissez bien votre motif. Moi, je dis souvent aux familles, n'inventez pas un motif. Vous utilisez le motif qui est le motif réel. C'est quand même plus facile de parler d'une situation qui existe vraiment que d'inventer un scénario. Et le troisième, alors j'aime pas faire de l'auto-proclame, mais on a effectivement rédigé un guide qui a le mérite d'exister et qui aujourd'hui va compiler et organiser tout le retour d'expérience qu'on a eu sur les 5 dernières années, 2022, 2026, donc 4 années, on arrive sur la 5e année, et qui a eu le mérite cette année, il faut le reconnaître, parmi ceux qui ont téléchargé ce guide, et bien d'obtenir des autorisations du premier coup. Je ne sais pas si c'est grâce au guide ou simplement parce que cette année, ils ont lâché un peu plus les vannes. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai mis en place toute une série de recommandations avec des erreurs un peu grossières, mais qui sont malheureusement parfois commises par les parents, comme par exemple mettre en avant le fait que d'autoriser l'instruction en famille va permettre à la famille de mieux s'organiser, alors qu'en fait, on le comprend, évidemment, que dans les faits, c'est un choix de famille, mais il faut mettre en avant l'intérêt de l'enfant. Donc, si vous présentez les faits, c'est la même histoire, mais en mettant davantage l'intérêt de l'enfant et d'expliquer en quoi, pour l'enfant, ça va être une bonne chose de faire en sorte que sa famille soit avec lui, c'est la même histoire, ce sont les mêmes mots, mais vous allez les utiliser différemment. Et là, on voit qu'on constate qu'on a des autorisations qui sont plus facilement délivrées. Alors, c'est pas la garantie d'avoir son autorisation, mais on a remarqué quand même que, effectivement, avec ce guide, on avait eu des parents qui avaient été vraiment satisfaits et qui, cette année, se sont dit, heureusement, on a enfin un guide pratique qui existe et qui nous a permis de nous en sortir. Donc, je ne sais pas si certaines familles, tout à l'heure, vous le disiez, il y a des associations qui veulent pas donner leurs tips et astuces. Moi, je pense que il faut les donner, ces astuces, parce que concrètement, si on peut s'éviter d'aller dans un contentieux ou de faire appel à un avocat, bah, c'est quand même le mieux.
Bien sûr. Non, parce que c'est devenu un sujet extrêmement sensible et vous savez très bien, aussi bien que moi, que quand c'est comme ça, il peut se passer tout, absolument tout et n'importe quoi, qu'il y a des réactions qui sont disproportionnées. Il y en a qui disent ils sont frontaliers, donc ils jouent avec le système frontalier. D'autres qui inscrivent leurs enfants à distance et puis qui disent OTA, au tribunal administratif, je respecte l'obligation de scolarité et en tapant sur les lenteurs judiciaires, une fois que l'enfant a 15 ou 16 ans, le problème est réglé. Enfin, on entend beaucoup de choses en fait. Je pense qu'il faudrait rationaliser un petit peu, en fait. La situation, elle est pas, elle reste gérable si on veut le faire.
Moi, ce que je préconise toujours à mes clients, c'est de rester dans la légalité le plus
bien
possible.
Sûr,
pourquoi?
Évidemment, bien sûr.
Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de parents, à juste titre, on l'entend, estiment que comme c'est la loterie, ils ont plus envie de jouer à ce jeu-là. Ils ont plus envie de se soumettre à un stress, parce que c'est un stress. Hein. Vraiment, nous, on récupère des parents qui sont dans un état de stress parce que, bah, concrètement, l'administration va pouvoir décider pour eux s'ils vont avoir plus tel ou tel mode de vie. Parce que quand vous avez les enfants à la maison, c'est toute une organisation que vous mettez en place.
Et puis attention, si ça se passe mal, vous pouvez perdre les enfants. Moi, j'ai quand même beaucoup de vos confrères qui m'ont dit, il y a deux marqueurs pour les services sociaux, c'est l'école à la maison et le refus des vaccins. Si vous avez les deux, il y a très très forte chance que les sociaux viennent et vous pouvez perdre vos enfants. Donc en fait, il y a vraiment un stress.
Tout à fait. Non, mais il y a un vrai stress. Et nous, en tout cas, aujourd'hui, c'est assez palpable. Hein. On a des discussions avec nos clients qui sont assez tendues. Alors, pas tendues envers nous, mais tendues parce qu'ils y placent beaucoup d'espoir.
Mais d'émotionnel.
Dans les solutions qu'on va leur proposer. Alors que, concrètement, il n'y a pas de formule magique. Hein. Récemment, vous voyez, j'ai refusé une cliente un peu à contre-cœur, mais elle me dit, moi, je veux la garantie que vous êtes capable de me donner les chances de succès. Les chances de succès, allez, vous prenez votre doigt, là, comme ça, vous le tendez dans le vent et vous regardez dans quel sens le vent va. Parce que c'est à peu près la même chance de prédire la solution qui va intervenir que de prédire dans quel sens le vent va tourner.
Bien
donc, il n'y a aucune formule magique. Si on l'avait, évidemment, moi, je l'aurais donné avec grand plaisir, mais je ne l'ai pas, cette formule magique, et mes confrères non plus. Mais par contre, il y a des erreurs qu'on peut éviter, il y a des dossiers qu'on peut renforcer, et il y a des procédures qu'on peut gagner. On ne les gagne pas toutes, évidemment, et c'est pas ce qu'on dit à nos clients, parce que aucun avocat peut garantir un succès juridique. Mais aujourd'hui, concrètement, la position du juge administratif suprême, le Conseil d'État, elle est extrêmement libérale. Il vous dit que dès lors que c'est dans l'intérêt de l'enfant, il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est aussi dans son intérêt d'être scolarisé. L'instruction en famille, c'est pas une modalité subsidiaire qui s'appliquerait par défaut, à défaut de mieux. C'est un vrai mode d'instruction de l'enfant qui peut être prodigué par les parents dès lors que c'est dans son intérêt et que les parents, qui sont les plus à même de déterminer si c'est dans l'intérêt de l'enfant, ont été capables de l'exprimer auprès de l'administration.
Ça, alors, c'est la position. C'est très flou parce que l'intérêt de l'enfant n'a jamais été défini juridiquement.
Tout à fait. Et c'est là-dessus que, aujourd'hui, en fait, les parents, malheureusement, subissent une rupture d'égalité devant la loi. Pourquoi une rupture d'égalité devant la loi? Eh bien, parce que ça va dépendre d'une administration, d'un agent qui ne connaît pas vos enfants et qui va être amené à appuyer sur un bouton pour vous autoriser ou vous refuser l'instruction en famille. Parce que c'est vraiment la loterie. Je vais vous donner des exemples qu'on a pu voir, nous, avec les clients qu'on a pu avoir. Certaines années, alors qu'ils pratiquent l'instruction en famille depuis plusieurs années, tous les enfants vont avoir l'autorisation. Et puis l'année d'après, certains enfants vont avoir un refus quand d'autres auront une autorisation. Et puis l'année d'après, les enfants qui ont eu une autorisation l'année précédente vont avoir un refus et ceux qui avaient eu un refus vont avoir une autorisation. Même dossier, mêmes enfants, et pour des raisons que vous ignorez, des solutions totalement divergentes. Pire encore, cette même famille va dans un autre rectorat parce qu'elle va déménager, elle fait la même demande, autorisation accordée, quand dans l'autre rectorat, celle-ci est refusée. C'est le même dossier, c'est la même histoire, ce sont les mêmes enfants. Il n'y a pas de règles, et c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune sécurité juridique, il n'y a aucune prévisibilité, et c'est vraiment au bon vouloir de l'administration, avec un juge administratif qui, jusqu'à maintenant, est quand même assez fluctuant, puisqu'il ne définit jamais ce qu'est une situation propre de l'enfant, ce qui veut dire qu'on va avoir encore un flou juridique pendant quelques années, jusqu'à ce que le Conseil d'État tranche définitivement la question. S'il vous dit la situation propre de l'enfant, c'est une situation très limitative, restrictive, qui correspond à telle définition, alors on arrête de perdre notre temps et on arrête de demander des autorisations si on sait qu'on ne rentre pas dans ces conditions.
C'est quand même très problématique, cette espèce de flou juridique, le fait qu'une même affaire absolument identique aux pièces équivalentes soit jugée différemment à tel ou tel endroit. Ce n'est pas que pour l'instruction en famille. Hein. Moi, j'ai cru comprendre que c'était un problème plus global. Bon, en attendant, il y a beaucoup de milieux associatifs et autres. Ce milieu associatif, est-ce qu'il est performant, il est utile? Est-ce que c'est bien de se rapprocher d'une communauté ou est-ce qu'il faut, au contraire, éviter comme la peste des gens qui sont un peu étiquetés? Quel positionnement faut-il avoir?
Non, moi je pense que c'est génial parce que ces associations, elles sont à la pointe finalement de ce sujet. J'ai même envie de dire, parfois, elles connaissent mieux le sujet que les avocats eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, on connaît le juridique, mais oui. Si on n'a pas nos propres enfants qui sommes confrontés à l'IEF, je reconnais, on n'aura pas cette expérience personnelle qui mérite d'être vécue et qui permet...
Ils vont gérer 300, 400 enfants, puis ils vont bien voir sur les 300, 400 comment ça se passe et ils vont tirer des conclusions. Ouais.
Bien sûr, donc moi, ces associations, je trouve que c'est très complémentaire. Après, évidemment, dès qu'on passe sur la phase juridique, nous, on intervient à un autre moment. Mais vous pouvez pas... Moi, j'ai souvent le reproche de... Vous n'êtes pas le spécialiste de la matière, vous ne connaissez pas bien la dernière jurisprudence, le dernier texte. Bon, je trouve que c'est un peu limite comme argument parce que, justement, on connaît parfaitement bien les textes. Par contre, c'est sûr qu'il y a des éléments pratico-pratiques qui vont toujours pouvoir nous échapper parce que si vous ne pratiquez pas à titre personnel, eh bien, il n'y a que la pratique qui vous permet de connaître les petites subtilités procédurales de l'instruction en famille. Mais ce sont des subtilités qui n'ont pas d'incidence sur obtenir une autorisation ou obtenir gain de cause devant un juge.
Alors, dans quel sens va le vent actuellement? Je veux dire, cette loi qui au départ était contre les séparatismes, on voit bien que dans tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui, ce n'est pas une question de séparatisme. Est-ce qu'elle va se durcir? Est-ce qu'on va au contraire vers un relâchement des contraintes? À votre avis, l'ambiance sur le terrain, voire législative, elle est dans quelle direction?
Alors, comme je vous le disais avant qu'on commence notre émission, j'ai eu le plaisir d'être auditionné par la commission parlementaire qui s'interrogeait justement sur la réforme de l'instruction en famille. Et ce qui a pu être dit au terme de cette réforme, c'est que l'effet attendu de la réforme n'a pas du tout été obtenu. Alors, pourquoi il n'a pas été obtenu? Déjà parce que les petits djihadistes en puissance, c'était déjà pas en conformité avec les lois de la République. Si vous leur dites, il faut vous mettre en conformité en vous demandant une autorisation préalable, ils vont pas plus respecter la loi.
Ils sont toujours pas.
Qu'ils faisaient auparavant.
Ils étaient pas avant, ils sont toujours pas. D'accord.
Ouais. Eux, ils sont passés sous les radars. Eux, on sait pas où ils sont. Donc, ils ont pas été touchés par le scope de la loi. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient pas visés par la loi, qui aujourd'hui sont vraiment ennuyés, judiciairement parlant, par rapport à ça. Parce que ce qui se passe, et là, c'est plutôt la tendance, c'est qu'on a des parents qui ne veulent plus faire de demande d'autorisation préalable et d'autorisation d'instruction en famille. Alors, elles ne veulent plus parce que, c'est, encore une fois, quand les dés sont pipés, vous n'avez pas envie de jouer à un jeu dont les dés sont pipés.
Et puis, ils estiment que c'est leur espace privé, que ça ne regarde pas l'État. Certains vont estimer que, à un moment donné, c'est eux, c'est plus le... Voilà.
Tout à fait. Mais la difficulté qu'on a avec ce genre de comportement, c'est qu'en fait, on a des personnes qui font sécession.
Ouais, c'est le problème.
On a des personnes qui considèrent que la loi ne s'applique plus à eux. Alors, pour l'instruction en famille, on peut dire que c'est légitime, mais qui décrète ce qu'est une loi légitime? Parce que moi, par exemple, je peux décider que si mon voisin me vole, je peux me faire justice moi-même.
Parce non,
que
mais c'est un sujet extrêmement complexe. Hein. Cette loi sur l'instruction en famille a soulevé des énergies, des idées, des forces, des débats qui sont très profonds et très puissants.
Tout à fait. Et vous voyez, ça soulève la question un peu du Far West. C'est-à-dire quand vous êtes dans une logique où vous décidez si la loi s'applique à vous, en fait, on est dans une logique où chacun se fait un peu justice soi-même. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut mener que des situations de guerre civile. Donc, je ne recommande pas de faire ça parce que, clairement, c'est dangereux à la fois pour la société et pour la paix sociale. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça met les parents en difficulté parce que ces derniers se retrouvent devant ensuite le tribunal correctionnel. Je rappelle que moi, j'ai 100% des clients que j'accompagne qui ont fait des recours devant les tribunaux administratifs, 100%. Alors peut-être que je n'ai qu'un tout petit échantillon, mais j'en ai aucun qui est au tribunal correctionnel.
Oui, On va expliquer. Si jamais vous éduquez vos enfants vous-même, vous instruisez vos enfants vous-même, alors que l'État ne le veut pas, vous pouvez terminer au tribunal comme un violeur, un gangster. C'est ça, en fait, qu'on est en train de dire. Là.
C'est un délit, tout à fait, c'est un délit. En fait, vous vous retrouvez à la même audience que celui qui a tapé sur sa femme, celui qui a dîné, des gens très sympathiques. Et donc, évidemment, vous n'avez rien à faire là. Mais pour autant, vous êtes appelé à la même audience et vous devez répondre donc du délit que vous avez commis.
Et la punition est potentiellement lourde, d'ailleurs. Déjà, vous pouvez perdre vos enfants, vous pouvez être placé et vous pouvez aller en prison, je crois. Il y a un truc...
C'est d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende. Enfin bref, on rigole pas. Hein.
Non,
après, ils vont pas vous mettre en prison. Hein. Non, après, ils ne vont pas vous mettre en prison parce que les prisons sont pleines et que, évidemment, si vous commencez à mettre les parents en prison, ben, vous imaginez un peu le.
Oui, si vous criez un peu fort, vous allez y aller quand même. Hein, donc, il était dit bon.
Mais vous avez un casier judiciaire.
Oui, bah oui.
Vous avez un casier judiciaire, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines choses que vous ne pourrez plus faire.
Oui, bien sûr.
Et puis, à un moment donné, si vous persévérez, évidemment, ben, récidive sur récidive, vous allez finir par y aller. Et s'il faut faire un exemple, ils feront un exemple. Donc, moi, je ne préconise pas ça. Moi, je préconise, vous faites vos demandes, vous contestez devant le tribunal administratif et quand vous arrivez devant le tribunal correctionnel, vous dites, regardez, moi j'ai voulu me mettre en conformité, j'ai demandé mes autorisations, elles m'ont été refusées, je les ai contestées devant le tribunal administratif, donc potentiellement, l'élément matériel de l'infraction que vous me reprochez n'est pas forcément caractérisé.
Parce voilà, que voilà. Si ils, sont scolarisés, ils sont scolarisés au CNED et j'ai essayé de faire comme il faut, donc on plaide la bonne foi, j'ai entendu ça dans une association.
On plaide la bonne foi et voilà. Surtout, si vous obtenez gain de cause devant le tribunal administratif, dans 2 ans, dans 3 ans, après avoir été condamné, ben vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours en révision. Puisque un des éléments qui permettait de caractériser l'infraction pénale a disparu rétroactivement. D'accord. Donc, ça aurait changé la donne. Si le juge en avait eu connaissance au moment où il avait jugé, eh bien, ça aurait changé la donne. Donc, les procureurs n'ont pas trop envie d'aller s'aventurer là-dedans.
Alors, donc, cette commission qui vous a entendu, quel était le sens du vent, l'orientation des débats, à votre avis, est-ce qu'ils ont envie de durcir ou est-ce qu'ils ont envie de relâcher la situation ?
Alors, la commission, je ne connais pas forcément son avis. Je me dis, déjà, c'est très bien qu'ils s'intéressent là-dessus parce que, clairement, pour moi, cette réforme, elle a fait plus de mal que de bien. Et surtout, elle a créé une rupture d'égalité devant la loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même famille, mêmes enfants, d'une année sur l'autre, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Donc, ça va dépendre de l'administration, ça va dépendre de l'agent, ça va dépendre est-ce qu'il a pris un bon café le matin avant de regarder votre dossier. Enfin, vous voyez, on en est presque à se demander ça. Donc, évidemment, c'est très loin de l'égalité devant la loi, devant la sécurité juridique et la prévisibilité de la règle de droit. C'est quand même des principes constitutionnels qui sont important. Donc ça, aujourd'hui, on a créé un vrai no man's land juridique. C'est évanescent. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et vous avez aussi créé une précarité juridique. C'est-à-dire qu'on a plein de parents qui sont dans l'illégalité et qui viennent occuper les juridictions pour rien. Enfin, concrètement, on a d'autres chats à fouetter. Je veux dire, allons nous occuper de tous les pédocriminels qui sont en train de sévir en toute paisibilité. Allons nous en occuper plutôt que d'aller emmerder les parents qui ont décidé de faire l'instruction en famille et qui ne troublent pas l'ordre public. Donc, on voit bien que ce sont évidemment des priorités et aujourd'hui, clairement, pour moi, hein, c'est assez évident. On devrait revenir à l'état antérieur. On rappelle que parmi les très nombreux parents qui étaient contrôlés chaque année au titre de l'instruction en famille, moins d'1% faisait l'objet d'une demande de réinscription des enfants dans les écoles en raison d'un niveau insuffisant. Moins d'1%. Donc, laisser aux familles le soin d'instruire leurs enfants, je pense que là, le problème, il n'est pas là.
Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que les gens qui s'organisent correctement apportent à leurs enfants un niveau suffisant, en fait.
De toute façon, les gens ne vont pas s'aventurer à instruire leurs enfants s'ils n'ont pas eux-mêmes le niveau. Ont conscience. C'est très bien qu'ils font perdre des chances de succès à leurs enfants et qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas bien lire, pas bien calculer, pas bien maîtriser le B.A.B.A., vous n'avez aucune chance de pouvoir vous insérer dans la vie.
D'accord.
Aucun parent qui aime ses enfants n'a envie de faire perdre des chances de succès à ses enfants.
Bien sûr, évidemment. Maître David Guyon, comment on vous joint si on veut vous parler de ce sujet-là? Comment on fait?
Écoutez, il y a plusieurs manières, mais la plus simple, c'est de nous contacter directement sur notre site internet, guyon-du6avocat-au-singulier.fr. On clique et puis sur la première page, on peut directement nous contacter. On a aussi un super chatbot qui est sur notre site internet qui permet d'être rappelé par un des membres de mon équipe ou de nous laisser les coordonnées pour qu'on puisse les rappeler. Donc, c'est vraiment très facile de rentrer en contact avec nous si on a besoin de discuter de l'instruction en famille.
Ah oui, et là, effectivement, nous sommes en juin. La fenêtre du 31 mai est passée. Il n'y a maintenant plus aucun recours jusqu'en mars prochain ?
Alors, pas totalement ça, puisque vous pouvez à tout instant au cours de l'année déposer une demande d'instruction en famille dès lors qu'il y a un élément nouveau qui apparaît.
Justificatif.
Et voilà, c'est souvent le cas, par exemple, en matière de harcèlement scolaire. Bon, ben, ça vient d'arriver, évidemment, vous n'alliez pas prévoir qu'il y avait une situation de harcèlement.
Et ben puis, c'est pour ça que j'ai plein de témoignages d'enfants qui sont en harcèlement scolaire, qui ne veulent plus aller à l'école, qui ont un suivi psychologique, et du coup, hop, ils vont en instruction à la maison.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Il y a toute une série de personnes qui bénéficient de l'instruction en famille. Enfin, il n'y a pas de catégorie homogène. C'est vraiment des catégories hétérogènes qui ont leurs propres motifs, chacun, et qui sollicitent tous l'instruction en famille. le harcèlement moral, enfin le harcèlement scolaire en fait partie.
Donc si l'enfant est harcelé à l'école, certificat médical, tout ça et autres, et on peut tenter en cours d'année, en dehors des fenêtres traditionnelles, une scolarisation en famille. D'accord.
Et puis il y a une autre, là c'est de la jurisprudence, hein, parce qu'en fait à tout moment l'administration peut être saisie d'une demande d'instruction en famille et accepter d'instruire cette demande. Et on retrouve très régulièrement des personnes qui en cours d'année vont demander l'instruction en famille.
D'accord, très bien. Maître David Guyon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous les auditeurs, la suite des programmes, merci, au revoir.